Mes amis, dans nos célébrations, nous avons toujours deux moments. Le premier, c'est le moment de la proclamation de la parole de Dieu. Ensuite, c'est suivi du temps de la prière eucharistique. Et cela, les deux moments sont présentés par deux endroits symboliques dans nos églises. Vous avez le lambeau, c'est le lieu de la proclamation de la parole de Dieu. On peut dire que c'est l'autel de la parole de Dieu. Le deuxième, c'est l'autel de l'Eucharistie. Alors, dans les lectures d'aujourd'hui, je peux dire que l'accent est mis sur le premier autel, la proclamation de la parole de Dieu. À un autre moment, à un autre jour, on parlera de l'autre autel. Mais aujourd'hui, on met en évidence le lambeau, la proclamation de la parole de Dieu. Regardez ce qui s'est passé il y a plusieurs années, que rapporte la première lecture. Voilà que le peuple d'Israël, qui était en exil durant 50 ans, finalement, avec l'aide de Dieu, ils reviennent. Le peuple revient à Jérusalem. Alors, quand ils arrivent dans la ville de Jérusalem, tout est dévasté. C'est une ville fantôme. Il faut tout recommencer, tout reconstruire. Il faut restaurer le temple. Ça a pris plusieurs années à le faire. Finalement, ils sont arrivés à reconstruire pratiquement la ville, à rebâtir les remparts de Jérusalem, les murs de Jérusalem. Mais là, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire pour célébrer cet événement parce que notre vie reprend son rythme normal. Alors ils se sont dit, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons faire une liturgie et nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. C'est ainsi que, tenez-vous bien, ils ont commencé la lecture de la loi, de la Bible, du lever du jour, du lever du soleil, jusqu'à midi, sans interruption. Et ils écoutaient la parole de Dieu. Et le texte dit, le peuple était tellement rempli, il savourait les paroles, que quand on les prononçait, le peuple n'hésitait pas à dire « Amen, oui, je crois, c'est cela la parole de Dieu. » Et il y avait une réaction parce qu'ils étaient émus. Ils ont senti leur cœur se remuer à l'écoute de la parole de Dieu, dit le texte. Parce que dans l'assemblée, il y en a qui ont commencé à pleurer, à verser le larme en écoutant la parole de Dieu. Parce qu'ils ont reconnu leur histoire. Ils se sont sentis touchés par la parole de Dieu parce que Dieu répondait à leurs attentes. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes au début de la vie publique de Jésus dans l'évangile de Luc. Et Jésus, après sa renommée, voilà qu'il s'est dit, je vais rentrer chez moi au village, à Nazareth, pour prêcher aussi aux miens. C'est ainsi qu'il est parti à Nazareth. Et, dit le texte, comme c'était sa coutume, ses habitudes, il s'élève, il va faire la lecture. Mais ce qui est important, c'est de voir que après la proclamation de la parole de Dieu, encore là, tout le monde a les yeux rivés sur lui, fixés sur lui, parce que il a tellement bien lu, le peuple a saisi les paroles. Maintenant, il voudrait entendre le commentaire, comment lui va les expliquer. Mes amis, la parole de Dieu touche les cœurs des gens. Et quand la parole de Dieu te touche, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas celui qui proclame la parole, mais c'est la puissance de l'Esprit, c'est la force de Dieu qui connaît ton cœur, qui connaît tes attentes. Parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, tu saisis une parole de Dieu et tu te sens remué de l'intérieur? C'est parce que tu découvres que le Seigneur répond à tes attentes, à tes aspirations les plus profondes, les problèmes que tu es en train de vivre, tes attentes, les questionnements que tu portes, tout d'un coup, tu vois que le Seigneur vient te donner la lumière et il vient te soutenir dans l'expérience du moment. C'est ainsi qu'on peut dire que la parole m'a saisi, que la parole est venue me chercher, que la parole m'a transformé. Alors c'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui d'être touché par la parole de Dieu. Regardez dans l'évangile lui-même, vous vous rappelez l'histoire de Nicodème. Eh bien, Nicodème, il était touché par la parole de Jésus, même si, publiquement, il ne le reconnaissait pas. Il est parti voir Jésus de nuit, parce que ce jeune maître-là avait transformé sa vie. Nicodème est arrivé à reconnaître que Jésus était un homme spécial, parce qu'elle était touchée par sa parole. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film de Jésus de Nazareth qui a été monté par l'auteur italien Zeffirelli. Ce film, quand c'est sorti, avait beaucoup de succès. Et puis, moi personnellement, une partie que j'ai aimée, c'est que tu vas voir qu'à un certain moment dans le film, on montre Jésus en train de procéder à plusieurs guérisons. Des aveugles, des lépreux, des paralytiques, etc. Ça sont des visions physiques fortes. Du coup, on voit Jésus en train de prêcher. Et en dessous d'un arbre, assise une femme, c'était Marie-Madeleine. Elle écoute ce que Jésus raconte, ce que Jésus dit. Et du coup, elle est saisie par ses paroles, elle fond dans larmes. C'est que ses paroles l'ont touchée, ses paroles sont parties la chercher, et elle a senti un retournement, un bouleversement en elle. À partir de ce moment-là, elle s'est convertie. Elle est devenue disciple de Jésus. La parole qui touche, la parole qui convertit, la parole qui appelle au changement. C'est la puissance de la parole de Dieu quand elle est proclamée. Vous vous rappelez, le pape Jean-Paul II a été élu en octobre 1978 et sa première messe, la messe d'intronisation, a eu lieu le 22 octobre 1978 sur la place Saint-Pierre. Et dans son homélie, la première, à un moment donné, il va dire, en prenant la parole de Jésus dans le Nouveau Testament, il dira, n'ayez pas peur d'ouvrir vos portes au Christ rédempteur, n'ayez pas peur d'ouvrir vos systèmes économiques au Christ, n'ayez pas peur d'ouvrir vos nations, vos maisons, vos familles au Christ, parce que le Christ sait ce qu'il y a dans l'être humain. Mais ces paroles-là ont tellement touché des personnes que finalement c'est devenu des paroles prophétiques. Parce qu'aujourd'hui, si tu parles de n'ayez pas peur, tout le monde va dire Jean-Paul II. 30 ans après, dans son pontificat, on est parti lui poser la question plusieurs années après, mais dit sa sainteté, disait un journaliste, le 22 octobre, quand tu es devenu l'évêque de Rome, et que tu as dit n'ayez pas peur, est-ce que tu savais comment les gens allaient recevoir ces paroles-là? Il a dit, du tout. Moi, j'ai préparé mon homélie, comme je l'ai fait. Et puis, je l'ai prononcé. Mais voilà que ces paroles ont touché les personnes et ça continue à les toucher encore aujourd'hui. Même le pape Benoît XVI qui va suivre, il reprendra ces paroles-là encore. Et même une journée de jeunes, une journée mondiale de jeunes, ils vont prendre cela comme thème. N'ayez pas peur, mes amis. Qu'est-ce qui a fait que le 22 octobre 1978, quand le pape Jean-Paul II a prononcé les paroles « N'ayez pas peur », qu'il ait bouleversé, touché tant de cœurs, remué tant de cœurs, et que cela ait continué des années et des années, que ça continue aujourd'hui. C'est la puissance de la parole de Dieu qui est proclamée. C'est Dieu qui s'exprime, c'est Dieu qui parle. Mais il y a la belle histoire du curé d'Ars. Voyez-vous, Jean Vianney, quand il a été nommé à Ars, eh bien, c'était un pauvre prêtre qui arrivait là-bas. Et puis, dans ses débuts, ce qu'il faisait pour ses homélies, il allait puiser dans ce qu'on appelait le sermonaire. Alors, tu avais plusieurs sortes de sermons. Tu pouvais aller en chercher et puis présenter à l'assemblée ce qu'il faisait. Au début. Mais il a vu qu'il s'enfargeait dans le monde, il ne se retrouvait pas et puis il n'était pas à l'aise. Alors il dit, non, moi je fais autre chose. Alors il a commencé à parler à partir de ses convictions. Et là, il a commencé à toucher le cœur des gens. Parce que c'était un homme de Dieu, c'était un homme de prière. Et il faisait des jeûnes et des jeûnes. Et quand il commençait à prononcer les paroles, alors là, l'assemblée était remuée. Et on raconte, même, il arrivait quand il célébrait la messe, et quand il prêchait, il versait des larmes, tellement en exprimant l'amour de Dieu, tellement en exprimant comment nous décevons Dieu, lui, il entrait dedans, il pleurait, il parlait. Et vous savez quoi? Les gens dans l'assemblée pleuraient, versaient des larmes, en écoutant ses paroles, en le voyant agir. On raconte, parfois, quand tu allais à la confession, tellement qu'il était rempli de Dieu, il te disait la parole de Dieu, tu dis tes péchés, il dit, oh, c'est dommage. Alors tu fondais en larmes. C'est moi cette parole-là, c'est dommage. Parce qu'il était habité de Dieu. Donc cette parole qui vient te saisir, qui vient te prendre, qui te change, qui te transforme, c'est la parole de Dieu quand on la proclame en union avec le Seigneur. Dernièrement, j'étais touché. On a beaucoup entendu des choses sur le décès de René Angélil. Il y a eu beaucoup de témoignages, de bons témoignages. Et ce jour-là, par hasard, j'écoutais des témoignages quand il venait de mourir là. Et puis c'était Gregory Charles, qui est mulâtre, si vous vous rappelez. C'est un artiste au Québec. Et puis lui disait qu'il avait connu aussi René Angélil. Mais René Angélil l'a touché profondément pour un événement qui s'est passé dans sa vie à lui, Grégory Charles. Alors il dit ceci. Jeune enfant, il chantait dans une des chorales. Et ils avaient l'habitude d'être invités ici et là. Cette fois-là, ils étaient sous la houlette de René Angélil. Et ils sont partis chanter à un endroit spécifique où ils étaient invités, les jeunes. Ils arrivent à l'endroit, alors on faisait entrer les enfants de la chorale un à un. Ils passaient et ils entraient. Arrive le tour de Grégory Charles. Alors, le monsieur à la porte dit, non, toi tu n'entres pas. Il dit, comment? Non, on ne fait pas entrer les enfants de couleur ici. Alors, René a entendu. Il va à la porte, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, lui il est de couleur, les enfants de couleur ne sont pas permis ici, on ne les fait pas entrer. Alors René dit, ah, si c'est comme ça, nous ne chantons pas. Mes enfants, nous partons. Cet enfant-là, qui est à la porte, il fait partie de la chorale. S'il n'entre pas, nous ne chantons pas. C'est que vous êtes entrés, là, sortez, on part. Là, il change vite. Non, 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 vous pouvez entrer. Alors, ils ont changé complètement. Alors, Grégory dit, cet événement-là est resté gravé en lui. Et c'est vrai. Donc, il y a des choses dans la vie qui se passent et qui nous restent poignées, qui nous restent gravées avec un sceau au cœur. Alors, la parole de Dieu fait cela. Pourquoi ça fait cela? C'est parce que le Seigneur vient nous chercher, il connaît nos sentiments et il sait comment nous saisir parce qu'il nous a créés à son image. Alors en nous, l'image de Dieu qui parle, l'image de Dieu est ouverte à certaines réalités qui viennent chercher notre épanouissement comme être humain. Alors c'est cela qui se passe en fait. Regardez, encore une fois pour parler de René Angélil et de Céline Dion. Beaucoup de témoignages que j'ai entendus, on s'attendait à ce que, devant le cercueil, Céline soit là peut-être pour 40 minutes avant, 40 minutes après. Mais elle est restée là-bas tout le temps. Mais tout le monde est renversé. Il n'en revient pas qu'elle, connue de tout le monde, soit décédée là, à saluer la main à tout le monde, à parler à tout le monde. Qu'est-ce qui fait que ça nous touche? C'est parce que Dieu nous a créés à son image. Et l'image de Dieu, c'est toujours cette ouverture à l'humilité, à l'accueil de toute personne, sans frontières, cet amour qui s'étend partout. Voilà la parole de Dieu, voilà pourquoi elle nous saisit, voilà pourquoi elle nous tient, elle nous prend. Dans l'évangile, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que le Seigneur Jésus présente le programme de sa mission. Pour saisir cela, il faudrait se référer à ce qui se passe encore de nos jours. Quand, par exemple, un évêque de Rome a été élu, tu vas voir que des théologiens, des journalistes, des spécialistes vont se ruer sur lui plusieurs jours dans ses premiers moments du pontificat. Pourquoi? Parce qu'ils veulent savoir quel sera le programme du nouvel évêque de Rome. Par exemple, les spécialistes reconnaissent que pour Jean-Paul II, si tu prends l'encyclique « Le Rédempteur de l'homme », sa première encyclique, c'est là qu'il y a le programme de Jean-Paul II. Comment il va passer, comment il pense exercer son ministère romain. Le pape actuel, on parle beaucoup de la joie de l'évangile, l'exhortation évangélique. Quand tu l'écoutes dans plusieurs de ses interventions, tu verras qu'il y a toujours une idée qu'il développe à partir de ce texte-là, l'exhortation apostolique. Ça, c'est le programme du pape François. L'encyclique, c'est le programme de Jean-Paul II. Mais quand vous regardez l'évangile d'aujourd'hui tel qu'il est présenté, c'est le programme de Jésus. Le programme de sa mission, regardez, il dit d'abord il est Messie parce qu'il a été consacré, il est rempli de l'Esprit. Mais maintenant, parce qu'il est rempli de l'Esprit, alors il est envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus, durant toute sa vie, va prêcher pour les démunis, les pauvres, les exclus. Jésus va guérir le malade. Le texte parle de la guérison des malades. Les lépreux, le texte parle des lépreux. Les aveugles, Jésus va aider les aveugles à retrouver la vue. Donc, c'est un texte de programme. Et Jésus, ce qu'il vient de lire aujourd'hui à Nazareth, c'est ce qu'il va faire durant toute sa vie. Alors, vous et moi, comme nous sommes disciples de Jésus, comme le dit le deuxième texte, nous sommes les membres du corps du Christ. Alors, parce que nous sommes les membres du corps du Christ, nous sommes appelés à prolonger la mission du Christ. Qui va aider les malades aujourd'hui? Qui va faire attention aux aveugles? Qui va penser aux personnes avec maladie mentale? Qui va penser aux personnes qui sont exclues, les rejetées? C'est vous, c'est moi. Pourquoi? Parce que nous sommes les membres du corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ et nous prolongeons sa mission. Nous faisons comme notre maître. Alors, c'est une logique dans notre spiritualité. Hier, nous avons eu des funérailles magnifiques ici pour une de nos chrétiennes, Gabrielle Savoie. Sa famille l'appelait Gabi. Et voilà que quand j'ai partagé à un moment donné à la réception avec un de ses petits-fils, qui me dit, tu sais, grand-maman Gabi là, il avait une foi. Pas une foi qui reste dans les paroles, mais une foi qui atterrit, une foi qui se concrétise, qui prend chair. Parce que ma grand-mère Gabi était toujours en train de secourir le pauvre. Elle était toujours en train de venir en aide aux plus démunis, à ceux qui étaient dans le besoin. Elle était très sensible aux rejetés. Elle était toujours là pour faire quelque chose pour les autres. Elle nous invitait à sortir de l'égoïsme, à aller toujours, toujours et toujours vers les autres. Mais j'étais touché par ce témoignage-là d'un petit-fils envers sa grand-mère. Je trouvais ça formidable. Et moi, je me dis, ce qu'a faisait Gabriel là, c'est ce que nous devons faire, c'est-à-dire que nous sommes le corps du Christ, c'est à nous maintenant de nous occuper, de rejeter des prisonniers, des personnes dans le besoin. C'est notre tâche. Il y a le français qui est prêtre, un prêtre français, et puis écrivait en même temps, Michel, il y en a qui disent Michel quoi, d'autres qui disent Michel quoi, en tout cas, il est mort déjà, il est mort dans les années, je pense, 77. En tout cas, ce qu'il dit dans une de ses prières, il dit Seigneur, je t'offre mon cœur, s'adressant à Jésus. Seigneur, je t'offre mon cœur. Utilise mon cœur pour aimer les personnes autour de moi. Seigneur, je te donne mes oreilles aujourd'hui. Que tu entendes les cris des malheureux. Que tu entendes les plaintes de l'humanité. Et que tu viennes à leur secours. Seigneur, je te donne mes yeux. Que tu vois la misère de notre monde. Que tu vois les choses qui se passent avec mes yeux. Seigneur, je te donne ma bouche. Pour que tu t'adresses aux personnes qui m'entourent avec ta puissance, avec ton amour. Mes amis, en prenant l'Eucharistie aujourd'hui, ça sera notre prière. Que nos membres, que tout ce que nous sommes, deviennent un instrument pour le Christ en vue de l'amélioration de l'humanité, en vue de notre salut aujourd'hui. Amen.